Voilà, bonsoir. Bonne et sainte année à chacun d'entre vous. Et à vos familles. Aujourd'hui, nous allons aborder dans cette 11e leçon, si j'ai bien compté, 13e leçon, un sujet relativement nouveau pour moi. Donc c'est la première fois que je l'aborde. Et qui est sous la forme plutôt d'une recherche que je voudrais vous partager, plutôt que déjà, comme dans les autres interventions, un exposé complètement abouti sur la question du transgénérationnel. Question à laquelle notre société est paradoxalement davantage attentive. Je dis paradoxalement dans la mesure où notre société a une anthropologie d'un côté extrêmement individualiste et par ailleurs elle s'intéresse aussi aux questions transgénérationnelles. Un de ses précurseurs fut Gustav Jung, qui est mort en 1961. En psychologie, il écrit ceci dans « Ma vie, souvenirs, rêves et pensées ». Tandis que je travaillais à mon arbre généalogique, j'ai compris l'étrange communauté de destin qui me rattache à mes ancêtres. J'ai eu très fortement le sentiment d'être sous l'influence de choses ou de problèmes qui furent laissés incomplets ou sans réponse par mes parents, mes grands-parents et mes autres ancêtres. Il me semble souvent qu'il y a dans une famille un karma impersonnel. C'est toujours Jung qui parle. Le karma, c'est un terme sanskrit qui vient de la tradition hindoue et qui dit en fait que c'est le karma, c'est une sorte de résultante de mes propres actes et aussi des actes de mes ancêtres qui me donnent une sorte de pouvoir d'action supplémentaire. Donc il me semble souvent qu'il y a une sorte de qu'il y a dans une famille un karma impersonnel. J'ai toujours pensé, écrit Jung, que moi aussi j'avais à répondre à des questions que le destin avait déjà posées à mes ancêtres mais auxquelles on n'avait encore trouvé aucune réponse. Ou bien que je devais terminer ou tout simplement poursuivre des problèmes que les époques antérieures laissaient à mon suspens. La psychothérapie n'a pas encore assez tenu compte de cette circonstance. Voilà donc une longue citation d'un des maîtres de la psychologie moderne, d'un des pères de la psychologie moderne. Nous allons, pour notre part, non pas aborder les questions dans une perspective essentiellement psychologique, mais, fidèle à notre méthode, dans une perspective essentiellement biblique. L'Écriture sainte, en effet, est par excellence le livre de la généalogie, des généalogies. Dans l'exposé de ce soir, je vous propose deux grandes parties, plus une si j'ai le temps. La première partie, nous allons plonger dans le texte qui commence l'Évangile, le Nouveau Testament. Quel est le premier texte du Nouveau Testament? C'est le texte, l'Évangile de saint Marc, avec la généalogie de Jésus. Oui, c'est ça que je veux dire, oui. C'est Marc avec un T. Donc, mon premier grand point de ce soir, ma première grande recherche, va s'attacher à scruter ce texte et plus précisément la question de la grande solidarité des générations. Et cela, je vais le faire en quatre points. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons étudier une solidarité plus particulière, qui est une solidarité sur 3 ou 4 générations. Intéressant de voir qu'il y a évidemment une solidarité humaine générale, de généalogie en généalogie, mais il y a aussi une solidarité qui nous implique plus immédiatement, à savoir celle qui nous lie à nos ancêtres les plus immédiats, qui remontent à 3 ou 4 générations. Et pour cela, je vais revenir, pardonnez-moi, mais c'est un texte que vous connaissez déjà, mais je ne pense que je ne l'ai pas suffisamment exploré, et en même temps, ça va nous aider à faire mémoire, à savoir la solidarité qu'il y a dans la famille d'Abraham. Et Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Une solidarité qui a frisé à la catastrophe, d'accord ? Mais qui a été source de, finalement, de salut et d'espérance pour l'ensemble du genre humain, c'est-à-dire y compris pour nos propres familles. Et puis dans un troisième temps, si j'ai le temps, je voudrais aborder une question plus spéciale sur le rapport entre l'Eucharistie et le transgénérationnel. Vous savez que c'est une pratique dans certains endroits de célébrer une messe sur l'arbre généalogique de sa famille. Hein, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. On verra si on a le temps. Donc, premier point, la grande solidarité des générations en Matthieu 1 à 17. Je m'inspire notamment d'une étude d'un professeur d'ici et un jeune prêtre de notre diocèse qui est en travail de thèse pour l'instant, Sébastien de Horter, qui a fait un bel exposé ici même sur ce texte. Premier point. Donc, je ne vais pas relire le texte. Nous sommes donc au premier texte du premier livre du Nouveau Testament et qui renvoie donc au premier texte de l'ensemble de la Bible et le premier texte de ce que nous appelons l'Ancien Testament, à savoir le livre de la Genèse. Le premier livre biblique, en effet, est structuré par un certain nombre de généalogies. J'ai noté ces différents passages. Il y a une généalogie en Genèse 5, 1 à 32, 10, 1 à 32, 11, 10 à 32, 22, 20 à 24, 25, 12 à 21, 36, 1 à 43, 46, 8 à 27. Peu importe. Ça vous montre que l'ensemble du livre est structuré par une série de généalogies. Quel est le premier verset qui ouvre le Nouveau Testament, en sachant bien que le commencement est dans l'Écriture sainte, pas simplement à interpréter comme un premier commencement chronologique, mais aussi comme un principe, comme une matrice. Et donc, on pourrait dire que l'ensemble de l'Écriture sainte est le livre de la Genèse, d'une Genèse, d'un engendrement. De même, on peut dire que l'ensemble du Nouveau Testament est aussi un livre de l'engendrement. On parle aujourd'hui en catéchèse d'une pastorale de l'engendrement, ici à Bruxelles. Quel est ce premier verset ? Livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Genèse, Genesis en grec, se traduit par toldot, dont la racine hébraïque signifie enfanter. Alors, il y a différentes traductions possibles au mot Genèse. Il y a celui donc de l'enfantement, de l'engendrement, de la généalogie, de l'origine, et aussi, par développement, celui d'histoire. La Genèse traduit le mot « histoire ». L'histoire pour la Bible est avant tout une histoire d'engendrement. Au sens non seulement biologique du terme, mais aussi au sens spirituel. Car, comme nous allons le voir, l'engendrement dont il s'agit dans le Nouveau Testament est un engendrement essentiellement spirituel. Quel est le signe, nous l'avons déjà vu, de l'appartenance du peuple de Dieu, chargé de témoigner qui est Dieu? C'est le signe de la circoncision. Alors, ça peut paraître un peu étonnant. Que signifie, il y a un livre qui vient de paraître l'année passée chez Lessius sur des études sur ce que signifie la circoncision, mais symboliquement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le signe de l'alliance est posé à l'endroit même où la génération se transmet, où la vie se transmet. Et Abraham est invité à engendrer dans l'alliance avec Dieu. Nous avions vu ça. Donc, c'est impressionnant de voir que le signe même privilégié de l'alliance, de l'appartenance au peuple de Dieu chargé pour toute l'histoire de l'humanité de témoigner de qui est Dieu, ce signe-là est marqué dans la chair même, à l'intime même de l'engendrement. Les repères de l'histoire biblique ne sont donc pas les guerres ou les crises économiques, mais celles des générations dans leur dynamique de promesses et d'accomplissement. Des générations qui surmontent bien des défaillances et qui traversent bien des défaillances humaines. Une histoire, l'histoire, c'est l'histoire de la succession des engendrements. De ce point de vue-là, cette conception même de l'histoire est très différente de la conception moderne. Dans le texte que vous avez peut-être sous les yeux, nous avons trois séquences de 14 générations. Première séquence, il y a celle qui part d'Abraham et qui va jusqu'à David. Abraham le patriarche jusqu'au roi David. Série d'engendrements. Abraham engendra Isaac, or Isaac engendra Jacob, or Jacob engendra Judas et ses frères, or Judas engendra Phares et Zara de Tamar. Tiens, c'est étonnant. Nous étions bien partis, on passait de père en père en père en père, et là tout d'un coup, il y a l'irruption des frères, de deux fratries, Judas et ses frères, dont nous avons vu que le destin, non seulement d'Israël, mais aussi de toute l'histoire de l'humanité et du salut s'est joué, dans l'histoire de Joseph et ses frères, et nous avons Phares et Zara, qui sont des jumeaux, et en plus on a le nom de la mère cette fois-ci. Je vais en rendre raison bientôt. Donc, dès le début, on voit que la généalogie est bien sûr verticale, et principalement verticale, mais elle est aussi horizontale, à travers la fratrie. Il y a deux axes, si vous voulez. Elle conjugue deux axes. Donc, première série de générations, d'Abraham à David. Et puis, deuxième série de générations, deuxième séquence de 14 générations qui va de David à la déportation à Babylone. Et enfin, la troisième séquence de 14 générations va de la déportation au Christ. Donc, 3 fois 14. Alors, quand on lit souvent, si j'ai bon souvenir, c'est pendant l'Avent, ces textes à la messe, on attend que ça se passe, vous voyez ce que je veux dire, hein? Et pour rester attentif, on essaye d'écouter l'accent et s'il ne va pas y avoir une petite faute, etc. Bon. Mais en fait, dès qu'on connaît un petit peu qui sont ces messieurs et ces dames dont il est fait question, dont il est fait mention, tout de suite, la généalogie prend une ampleur et une force extraordinaire, car derrière chacun de ces noms se cache une histoire, se cache un visage, se cache une série de péripéties, d'épreuves, de péchés, de pardons, etc. De prière, de courage, d'attente. Et je dois avouer qu'il y a une différence maintenant quand je lis ce texte, ça me parle beaucoup plus qu'il y a quelques années. Après avoir travaillé l'écriture, tout d'un coup, les visages s'éclairent. Et donc ça devient non plus ennuyeux, mais passionnant. Mais en même temps, même si on ne connaît pas ces visages, ça reste passionnant, cette ritournelle de engendra, 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 engendra. Donc ça c'est mon premier point. Donc dans cette grande solidarité des générations, la question de l'engendrement. Le deuxième point dans cette grande solidarité des générations selon Matthieu 1, 17, je vais essayer de mettre en lumière les cinq personnages féminins dont il est fait mention. Dans une généalogie qui est essentiellement masculine. Il y a cinq femmes qui apparaissent. La première, c'est Tamar. Je vous suggère d'aller lire le livre de la Genèse au chapitre 38. Vous pourrez lire l'histoire de Tamar qui vaut vraiment tous les romans possibles et imaginables. C'est vraiment une histoire incroyable. Donc, elle a été mariée au fils de Judas. Judas, c'est le frère de Joseph. Il y a eu la grande misbrouille au chapitre 37 entre les frères. Et puis, Joseph est parti en Égypte et Judas est parti aussi en pays étranger où il a marié ses fils. Ses fils sont morts sans descendance et il reste le petit dernier. Et selon la loi du Lévira, il aurait dû donner Tamar en mariage à son fils cadet. Mais il a peur. Il y a déjà deux fils qui sont morts, donc il préfère ne pas donner sa fille à Tamar. D'accord ? Et résultat des courses, Tamar qui... excusez-moi, c'est quelque chose qu'on ne dit peut-être pas la veille du dimanche, mais Tamar qui veut absolument avoir une descendance. Donc l'objectif, c'est pas du tout... L'objectif numéro un, c'est vraiment d'avoir une descendance. Se déguise en prostituée pour avoir une descendance de son beau-père. D'accord ? Et l'enfante avec son beau-père, mais son beau-père ne sait pas que c'est sa belle-fille puisqu'elle s'est déguisée en prostituée. Il engendre des jumeaux. Souvenez-vous que tout le livre de la Genèse, c'est un problème d'habits qui voile et qui dévoile. Joseph et son habit princier, la tunique ensanglantée, Joseph qui va s'enfuir en laissant son manteau chez la femme de Putiphar, là, et qui va l'accuser, etc. Jacob qui était trompé. Qui a trompé son vieux père Isaac pour s'arracher la bénédiction en se déguisant avec un frère Ésaü, avec de la peau. Et puis après, quand il rentre le soir, Laban qui déguise Léa en Rachel, du coup il se trompe et il doit travailler encore 7 ans pour avoir la bonne. Enfin, vous voyez. C'est un jeu avec les apparences. Bon, nous sommes dans cette séquence littéraire, ce schéma littéraire-là. Donc, elle conçoit des jumeaux. Le premier s'appelle Phares et le second s'appelle Zara. Qu'est-ce que ça veut dire, Zara ? En fait, les jumeaux se sont battus pour être aînés. Et donc, ils se sont vraiment battus pour sortir en premier, parce qu'à l'époque, le premier, c'était celui premier qui sortait. Et donc, il y a celui qu'on a appelé Zara qui a poussé la main pour pouvoir sortir, et finalement l'autre a sorti sa tête avant, d'accord? Donc vous voyez la question, la rivalité qui est présente, bon. Et alors on a attaché, pour pas, je sais pas pourquoi, mais pour pas confondre, un petit fil rouge, c'est ça que ça veut dire Zara. Bon. Voilà donc pour Tamar, qui est dans la généalogie. C'est étonnant, hein, qu'on choisisse cette femme-là. Deuxième femme, Rahab, qui est une étrangère et qui, elle, est effectivement une prostituée, selon Josué 2.1. C'est la prostituée qui donne refuge aux éclaireurs de Moïse, mais qui fait une magnifique profession de foi. Quoiqu'étant étrangère, elle professe la foi dans le Dieu d'Israël. Tiens, ça pose la question, qui est vraiment membre d'Israël? Je ferme la parenthèse. Et elle attache un fil écarlate à la fenêtre de sa maison lors de la prise de Jéricho pour que tous ceux qui soient dans sa maison ne soient pas massacrés. Vous connaissez ce chapitre, hein, en Josué 2.18. Tiens, le fil écarlate, ça se dit Zara. Ensuite, vous avez Ruth, qui est une Moabite. Je cite en Nombre 22-24, « Jamais l'Ammonite et le Moabite n'entreront dans l'assemblée du Seigneur, même la dixième génération des leurs n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur. » Et on met, Saint Matthieu met, une Moabite dans la généalogie du Christ. C'est quand même stupéfiant. Alors, c'est une femme qui est restée fidèle, Ruth, à sa belle-mère, Noémie. Et vous connaissez toute l'histoire, hein, ça vaut la peine d'aller la lire. L'Écriture sainte, quand on a un fil conducteur, devient passionnante. Hein, c'est une suite d'histoires. Et donc elle va se marier avec quelqu'un de la parenté suite à toute une série de péripéties. Elle va se marier une deuxième fois avec quelqu'un de la parenté de Noémie, qui elle appartient au peuple élu, à savoir avec Boaz, B-O-O-Z. Qui est ce monsieur? C'est l'arrière-grand-père du grand roi David. Le grand roi David a comme arrière-grand-père une Moabite. Alors, au verset 7, toujours du chapitre 1, la troisième femme que nous avons mentionnée, c'est... On dit la femme, David de son union avec la femme d'Uri engendra Salomon. Le mot femme n'est même pas mentionné. Donc David de son union avec la d'Uri, engendra Salomon. Donc Bethsabée, on le sait par le deuxième livre de Samuel, n'est pas nommée pour elle-même, mais dans son lien d'appartenance initial, non pas avec David, mais avec Uri. C'est celle d'Uri. Derrière ces quelques mots, David, de son union avec la femme d'Uri, engendra Salomon, il y a toute une tragédie, mais qui, à la différence des tragédies, qui se termine bien finalement. Enfin, une tragédie là derrière, je ne vais pas vous raconter l'histoire que vous connaissez, mais où il y a adultère, tentative de tromperie, corruption d'un général, trahison du serment de soldat, dissimulation, meurtre et aussi mort d'enfant. Mais il y a aussi toute une histoire de rédemption et de salut qui aboutit à Salomon, le grand roi Salomon. Le grand roi Salomon vient de la femme d'Uri qui est devenue la femme de David. Quelque chose de stupéfiant. Et c'est elle, avec Nathan, qui va permettre à Salomon d'accéder au trône, parce que le roi David avait beaucoup d'enfants. Hein. Il y a toute une histoire de succession, de guerre, de succession de trône. Ces quatre femmes sont donc des étrangères qui n'appartiennent pas au peuple élu, ou bien des femmes qui enfantèrent dans des conditions irrégulières. C'est comme si l'évangéliste donnait la parole discrètement au moment où l'histoire a été plus tourmentée. Ceci étant dit, je ne vous raconte pas les histoires de tous les hommes, c'est certainement encore 10 fois pire, d'accord ? Mais voilà, il y a une mise en évidence de ce point-là. Le Christ ne vient pas dans une humanité idéalisée, ne vient pas dans une humanité de légende, mais il vient dans une humanité de feu et de sang. Il vient dans une humanité aussi de femmes qui se sont converties, qui sont entrées dans le dessein divin. Toutes ces femmes ont eu une conversion, à un moment ou à un autre. Elles ont eu foi dans des situations, alors même qu'elles vivaient des situations critiques. Et quand elles sont critiques, elles sont vraiment critiques, ces situations. Des questions de vie ou de mort. D'autres femmes, comme par exemple Athalie, ne sont pas dans la généalogie. Hein, Athalie, c'était la fille du roi Akab, hein, mais qui a persévéré jusqu'au bout dans sa détermination à exterminer toute la descendance royale de la maison de Juda. Hein. Elle ne s'est pas convertie. La magnifique tragédie de Racine, hein, d'Athalie. Donc voilà cette solidarité des générations qui aboutit au verset 16 à la Vierge Marie. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Marie, par rapport à toutes ces femmes, apparaît d'une pureté au sens, non pas moral du terme, mais au sens rituel du terme, au sens comme un joyau du peuple d'Israël. Elle est la dernière cité, mais d'une drôle de manière, avec une rupture dans la continuité du sang. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré, c'est un passif divin, Jésus, que l'on appelle Christ. Elle apparaît un peu, si vous voulez, tout en étant pleinement membre du peuple d'Israël, et à un degré imminent, elle apparaît un peu comme une étrangère à la généalogie. À la fois, elle apparaît comme l'épanouissement, et en même temps, oui, comme une sorte de pièce rapportée, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voilà pour mon deuxième point. Mon troisième point, il faut que j'avance, c'est un petit point de comparaison avec la généalogie qu'il y a chez Saint-Luc. Je vais aller rapidement. Chez Matthieu, donc, on part d'Abraham. Abraham engendra, etc. Une suite d'engendrement. C'est donc une généalogie ascendante, à partir de la paternité, de la relation de paternité, de l'acte d'engendrer. Donc, si vous voulez, la généalogie mathéenne nous plonge le lecteur dans une mémoire de la paternité. Une mémoire au sens fort du terme, c'est-à-dire une mise en présence, une anamnèse. Une chose est d'aller voir un musée, une chose est de se souvenir, quand il y a le sens du mémorial, c'est au sens eucharistique du terme. Quand on fait mémoire de la dernière scène, on la rend réellement présente. C'est dans ce sens-là. Il y a une mise en présence de la paternité. Nous sommes plongés, si vous voulez, dans cette longue suite de paternité, d'engendrement. On pourrait dire aussi une maternité, hein, parenté. Hein, voilà. Chez Saint-Luc, par contre, la généalogie est descendante. Elle part de Jésus et remonte ou descend dans les tréfonds de l'humanité, non pas jusqu'à Abraham, mais jusqu'à Adam. À l'intérieur de la dynamique d'un récit. C'est-à-dire que ça n'a bien qu'au chapitre 3. Cette généalogie est concentrée non pas sur le fait de l'acte d'engendrement, mais l'acte d'être engendré. Donc, si vous voulez, c'est un mémorial de la filiation. Fils de, fils de, fils de, fils de, fils de. Ça revient tout le temps. C'est pas il engendra, il engendra, il engendra, il engendra, mais fils de, fils de, fils de, fils de. C'est sur le fait même d'être généré. Et cette généalogie est rapportée juste après avoir vu l'Esprit Saint descendre sur le Christ, après son baptême, sous un aspect corporel, comme une colombe, et avoir entendu une voix hors du ciel, « Toi, tu es mon Fils, le bien-aimé, en toi j'ai mis ma bienveillance. » 3, 22. Donc, chez Luc, c'est vraiment la filiation qui est mise en... Et donc, c'est le Fils qui remonte vers ses origines. Et ces origines qui ne sont pas simplement celles écrites par l'histoire d'Abraham, mais qui remontent à l'histoire d'Adam. Et donc, il y a un psychiatre qui dit, il plonge dans les racines du préhistorique inconscient, parce que Adam et Ève, ce sont des grands mythes. Hein. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de rapport avec l'histoire, mais ce sont les mythes archaïques d'où émerge l'humanité. Et l'histoire commence à s'écrire, à proprement parler, avec Abraham, d'accord, lorsqu'il quitte son pays. Même s'il y a aussi des aspects mythiques chez Abraham. Donc, chez Matthieu, c'est une généalogie plus historique et élective, à partir de l'élection d'Abraham, l'appel d'Abraham. Chez Luc, c'est plutôt une mémoire préhistorique, à partir d'Adam. Même si chez Matthieu, Adam reste présent en filigrane. C'est mon quatrième et dernier point. Comment ? Alors, comme les textes, nous commençons à en avoir l'habitude, comme tous les textes bibliques, beaucoup de choses sont en filigrane. Adam est ici en filigrane de notre texte de Saint Matthieu. Comment ? Tout d'abord, dans le symbole des chiffres. Trois séquences de 14 générations. Qu'est-ce que ça veut dire ? 14, c'est 2 fois 7. Donc, on peut dire aussi que c'est 6 fois 7 générations. Vous me suivez, on est toujours autour de 42 générations. Le Christ inaugure en quelque sorte la 7e semaine, ou la 7e fois la 7e génération. Hein? La 7e séquence, depuis l'appel d'Abraham. Il est de ce point de vue-là, il inaugure la séquence messianique. En outre, il est appelé au début et à la fin Christ, ce qui est un titre messianique, Messie. Christ, c'est le mot grec pour dire Messie, hein, qui est un mot hébreu. C'est la même chose hein, quand on dit qu'il est Christ ou qu'il est Messie, c'est la même chose, mais dans deux langues différentes. Deuxième petit indice, livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors, les trois consonnes, évidemment, c'est un peu un jeu, mais l'écriture est plein de jeux. Hein. Les trois consonnes de la titulature, en sa version hébraïque, Messie, David et Abraham, Messie, David, Abraham, ça fait Adam. Vous suivez ? Jésus apparaît comme le nouveau principe de solidarité des générations. Et ça, c'est un point complètement décisif. Au-delà ou à travers, au-delà et à travers l'élection d'Abraham. Et puis, dans cette lumière-là, quand on lit les quatre premiers mots, livre de la Genèse, ça veut dire que nous sommes de nouveau dans un... Le Christ apparaît comme la clé de tout, finalement, oui, de toute l'Écriture. Et le troisième indice, c'est l'inclusion de toute la généalogie par Jésus et Christ, dont le nom signifie « Dieu sauve ». Mais à la fin, Marie de qui fut engendré Jésus qui est dit Christ. Tenons cette formulation, qui est dit Christ. Enfin, spontanément, moi j'aurais écrit de Jésus Christ. Hein, et qui est dit Christ. Est-ce qu'il y aurait un doute sur le fait qu'il soit le Christ ? Le texte ne va pas dans ce sens-là, il va plutôt dans le sens d'un appel, d'un acte de foi de la part du lecteur. Le lecteur doit ratifier personnellement, est invité à ratifier, est-ce que toi aussi tu dis que Jésus est Christ ? Et donc, c'est une discrète invitation, disent les exégètes, à se découvrir personnellement inscrit dans cette histoire. Retenons ceci, c'est que pour réfléchir au transgénérationnel, c'est la conclusion, si vous voulez, il est intéressant et utile de le réfléchir à l'intérieur de cette nouvelle solidarité transgénérationnelle dans le Christ. C'est un principe de discernement essentiel par rapport aux Eucharisties et les arbres généalogiques. Saint Paul va d'ailleurs développer cette vérité dans sa théologie des deux Adams, du baptême comme une nouvelle naissance et de l'Église comme corps du Christ. Il va mettre en lumière notamment le salut par la foi comme principe de cette nouvelle naissance, de l'engendrement non selon la chair, mais selon l'esprit. Matthieu lui-même lui dit aussi, hein, en 12:48, « Qui est ma mère, qui sont mes frères ? Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est ma mère, ma sœur, mon frère, ma mère... » Non, je m'embrouille. « Mon frère, ma sœur, ma mère. » Donc, si vous voulez, au terme de cette généalogie, il faudrait encore le montrer plus longuement, on découvre que le Christ n'est pas un étranger à notre propre généalogie familiale, aujourd'hui en 2016. Il est contemporain à chacun d'entre nous, dans l'Esprit Saint. On peut s'y ouvrir comme on peut le refuser, cette contemporanéité. Comment est-ce que cette solidarité générationnelle qui est un don de la grâce peut être accueillie ou refusée? Eh bien, c'est tout l'Évangile qui le raconte. Je pense par exemple au texte de la Samaritaine, que nous avons étudié ensemble. Alors, je passe maintenant à mon deuxième grand point. Après avoir considéré les générations, la solidarité transgénérationnelle en général, ça donne une unité extraordinaire au genre humain. Et ça préfigure aussi le type d'unité à laquelle nous sommes appelés dans l'éternité. Il y a une conception du salut qui n'est pas simplement et uniquement personnelle, qui n'est peut-être même pas d'abord personnelle. Je ne résiste pas, même si le temps va vite, mais... À vous raconter, si je vous l'ai déjà raconté, vous me le dites, hein, mais l'histoire, une petite histoire de Dostoïevski. C'est une méchante femme qui a été cuisinière toute sa vie et est projetée en enfer. C'est Dostoïevski avec son imaginaire. Et ça se termine très mal, hein. Mais son ange gardien vient intercéder auprès du roi, de Dieu, en disant, mais s'en prie, il faut la sauver, s'en prie. Et Dieu dit, mais je veux bien, j'en rêve. Mais oui, dit le petit ange, souvenez-vous, elle a fait une bonne action dans sa vie, elle a donné un jour un oignon à un pauvre. Alors Dieu dit, ah, formidable, vas-y, tiens, voilà cet oignon, va la sortir de l'enfer avec cet oignon. Alors le petit ange va au-dessus de l'enfer, c'est pas moi qui parle, hein, c'est Dostoïevski. Hein. Et il repère dans cette mélasse horrible, cette dame qui se débat avec un hein, bon, et il lui dit, allez, je viens, accroche-toi à l'oignon. Et hop, elle s'accroche à l'oignon. Et alors le petit ange tire. Et la femme s'accroche et elle commence à sortir tout doucement de l'enfer. Ça devient dur, mais ça va, ça marche. Mais les autres damnés voient que cette femme est en train de s'échapper. Et tout de suite, pouf, il s'accroche à ses pieds. Et alors la tension dramatique devient extraordinaire. Le petit ange est incorporel, donc il ne peut pas transpirer. Mais la dame, oui, ça c'est moi qui rajoute. Hein. Mais oui, et donc la tension est extraordinaire. Et à un certain moment... La dame commence à donner des coups de pied. Et au moment où elle commence à donner le premier coup de pied, crac, il y a l'oignon qui casse et elle retourne en enfer. D'accord ? Alors, bon, il y a quelques, l'une ou l'autre inexactitude théologique, mais laissons le point. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire-là ? Mais c'est pour raconter, c'est une parabole, c'est une histoire. Qui montre que le salut a une dimension essentiellement, enfin, profondément communautaire. Et pas simplement « je fais mon salut ». Vous voyez ? D'accord ? C'est ce qu'enseigne cette petite histoire. Bon. Alors, y a aussi la question donc, des solidarités plus particulières, parce que l'Écriture montre que il y a une solidarité plus particulière pour les 3 et 4e générations. Je vais devoir aller très vite dans ce point qui mériterait et qui nous intéresse au premier chef, puisque c'est plus immédiatement lié à nous. Nous sommes liés, l'enfant quand il naît, il est lié à toutes les générations, enfin plus particulièrement aux 3 générations, 3-4 générations qui le précèdent. Oh, je ne résiste pas non plus encore à une toute petite histoire. Pendant les vacances, il y a un enfant de 5 ans avec qui j'ai joué et j'étais stupéfait parce qu'il savait lire, mais comme un enfant de 7-8 ans. J'étais stupéfait. Et je lui dis, mais Maxime, comment t'as fait pour lire comme ça, si bien, et puis pour calculer? C'était vraiment extraordinaire. Il avait un petit 5 ans, il n'avait pas 5 ans accompli. Alors il me dit comme ça, ben tu vois, quand j'étais dans le ventre de maman, il y avait plein de livres et je les ai tous lus. Alors, moi j'étais scotché, 5 ans c'est quand même pas grand, quoi. Et il le disait avec un aplomb, et sa mère était à côté, et elle regardait comme ça. Alors je dis, t'es sérieux ? Il me dit, mais non, je rigole. Bon, donc, ça introduit la solidarité transgénérationnelle. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on reçoit à travers notre maman. Bon, nous avons vu, alors je vais aller très très vite, hein, à grande enjambée, nous avons vu dans notre cours sur Joseph et ses frères que l'origine de la jalousie entre les 12 remontait à bien plus loin que Joseph et ses frères. Il y avait tout d'abord une jalousie féroce entre le père de Joseph et de ses frères et son propre frère, entre Ésaü et Jacob, qui étaient jumeaux. Vous vous souvenez de ça, hein ? Vous savez ce que ça veut dire, Jacob, hein ? Ça ne veut pas dire Zara, celui qui tend son bras pour sortir, essayer de sortir le premier, mais Jacob, ça veut dire le talonneur, c'est-à-dire qu'il talonnait son frère pour pouvoir sortir le premier, d'accord ? Donc, il y a eu une rivalité dans le sein maternel, à un point tel que leur mère, Rebecca, n'en pouvait plus, elle voulait mourir, d'accord ? J'en peux plus. S'il en est ainsi, à quoi bon vivre ? 25-22. Bon, donc, si vous voulez, le conflit a profondément marqué les frères, et puis cette rivalité va augmenter avec l'âge. Ésaü ressemble davantage à Ismaël, hein, puisqu'il est chasseur, lui-même quand il naît, il a plus de... Enfin, il a un aspect plus solide, plus rude, Et donc, il fait penser beaucoup plus à Ismaël. Il va se marier avec des, même une de, enfin, avec des, de la descendance d'Ismaël. C'est l'hypothèse d'André Wénin, exégète belge de Luciel. Ismaël, c'est le frère de Abraham, le demi-frère d'Abraham, hein, par la servante. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, Abraham a eu deux fils, hein, un par la servante, la femme porteuse d'enfants, la GPA, si vous voulez, de l'époque, et l'autre par la femme libre, d'accord, en alliance. Il a conçu une fois, en dehors de tout lien d'alliance, instrumentalisant une femme, et Dieu, et d'un autre, avec Sarah, il a enfanté dans l'alliance, avec Dieu, avec sa femme, les deux, Puis il a été brutalement séparé le jour du sauvage, il y a eu une jalousie entre femmes, etc. etc. Et donc l'hypothèse d'André Wénin, c'est que Isaac ne s'est jamais vraiment remis de cette séparation brutale d'Ismaël. Il va établir sa résidence au puits de Laï Roï en 24-62. C'est un lieu étroitement lié à son frère disparu, puisque c'est là que sa naissance et sa destinée, donc on parle de celle d'Ismaël, furent annoncées à sa mère Agar au chapitre 16 de la Genèse. Isaac est davantage un chasseur comme Ismaël. Ésaü est plutôt un chasseur. Isaac préférait Ésaü car le gibier était à son goût. Ésaü comprit que les filles de Canaan étaient mal vues de son père, Isaac, et il alla chez Ismaël et prit pour femme, en plus de celle qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, le fils d'Abraham, et sœur de Nébaïot. Donc si cette lecture est exacte, le comportement d'Isaac envers ses fils Ésaü et Jacob tirent en partie son origine de la blessure causée par le recours d'Abraham à Agar et l'abandon de celle-ci et de son fils 15 années plus tard. Et tout le nœud familial qui s'est noué à ce moment-là. Rebecca, de son côté, va préférer le petit dernier, d'accord ? Alors, il y a aussi un terrible conflit du côté des mères, hein, entre Léa et Rachel. Bon, c'est compliqué. Mais, c'est-à-dire qu'il faudrait suivre à la trace d'où viennent ces jalousies. Et on se rend compte, en fait, qu'ils viennent en grande partie d'une blessure transgénérationnelle. Qu'est ce recours et à cette femme porteuse d'enfance, à cette esclave. Et donc, ça se termine par un conflit à mort, où Jacob est mis dans un trou, dans un puits, vous vous souvenez, hein? Pas Jacob, Joseph, fin de la journée. Joseph est mis dans un puits, et puis les frères mangent. Ça ne leur a pas coupé l'appétit de dépouiller leur frère et de le maltraiter. D'ailleurs, ils n'en voient plus en lui un frère. Donc ça, voilà. En même temps, c'est une annonce programmatique qu'auprès de Joseph, il y a toujours de quoi manger. C'est une annonce du futur. Mais alors, il y a une sorte d'indétermination qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? C'est que quand ils discutent pour savoir ce qu'on va en faire, passèrent des Madianites, des marchands, et ils tirèrent et firent monter Joseph hors du trou, et ils vendirent Joseph aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent, et ils firent venir Joseph en Égypte. Donc, vous imaginez, il y a les Israélites qui mangent, les Madianites qui tirent Joseph et qui le vendent, et les Ismaélites qui le prennent en esclavage en Égypte. D'accord ? Bon. C'est qui les Madianites ? Ce sont les descendants de Madian. Et qui était le père de Madian ? C'était Abraham. Ce sont des cousins. les Madianites descendent d'Abraham et de sa seconde femme Ketura, en Genèse 25, 1 et 2, c'est le sixième fils. Et les Ismaélites, ben, c'est aussi des cousins, d'accord ? On reste en famille dans ce drame. Dans cette conspiration, tous les acteurs sont en fait des descendants d'Abraham. Abraham est l'arrière-grand-père commun. Ça va ? Consciemment ou non, chacun y trouve son compte. Les Israélites sont débarrassés du frère élu, problème de l'élection, sans verser son sang, ni même le vendre comme esclave. Les Madianites, qui ont en fait été dépouillés de leur héritage à la fin pour qu'il n'y ait pas de problème avec ses fils, parce qu'il avait beaucoup d'autres concubines, etc., hein, Abraham, pour pas qu'il y ait des problèmes d'héritage, il a trouvé une solution radicale, il a renvoyé tout le monde, et il a tout donné à son aîné, d'accord ? C'est assez radical. Bon. Bien, les Madianites qui ont été dépouillés, bien, c'est eux qui vont tirer l'argent de la vente. Et les Ismaélites, qui sont les fils de la servante, ils vont pouvoir traiter le fils élu comme un esclave, comme eux, ils sont traités. D'accord ? On ne se rend pas compte en lisant cela, hein, mais les injustices familiales, solidement établies depuis plusieurs générations, trouvent ici une forme de dénouement tragique. Et plus tard, Joseph descend en Égypte, et plus tard, bien plus tard, quand Moïse commence à sortir d'Égypte, chez qui va-t-il se réfugier ? Chez les Madianites. Tiens, il y a une cohérence. Alors, est-ce que c'est voulu par le narrateur ? Moi, je pense que oui. Ce sont des textes qui ont été pensés et dits oralement de génération en génération. Et en même temps, peut-être aussi qu'il y a de l'ordre de l'inconscient qui s'exprime aussi. Je n'en sais rien. Au terme de quatre générations, nous restons dans la famille donc de Joseph, hein, donc Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Tout un travail a été mené chez le père, hein, le père Jacob, qui n'arrête pas de pleurer. Hein, vous souvenez, hein, il refuse de sortir du deuil. C'est sans doute une stratégie qui fait échec au complot des frères. Judas a eu son histoire épouvantable avec Tamar, mais qui s'est finalement bien soldée, puisque Judas a reconnu qu'il avait mal agi envers Tamar. En fait, il voulait la brûler quand il a appris que c'était sa belle-fille. Il voulait la brûler. Et puis, finalement, il a reconnu qu'il n'avait pas respecté la loi du Lévira, et donc, il l'a prise comme épouse. Donc il y a tout un travail intérieur, et chez Joseph aussi, il y a eu tout un travail. Et donc, il y a la famine qui survient. Souvent, nous voyons que dans les familles, il y a un élément extérieur qui advient et qui permet de rejouer les choses. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, bon, et puis parfois plusieurs années plus tard, il y a un événement extérieur qui permet à chacun soit de se durcir encore, soit alors de faire un geste, soit de les événements permettent aux situations d'évoluer. Et on assiste à ce qu'appellent Janine et Jean Assens, donc deux psychiatres, un règlement de compte généalogique. Comment ? Ben, l'histoire se termine bien. Jacob redevient pleinement père. Il n'a jamais cessé de l'être totalement, mais enfin, il était dans le deuil. Alors que le deuil, c'est très important de le faire, mais pouvoir en sortir est aussi important. Il y a un moment pour tout, un moment pour pleurer, et un moment pour sortir du deuil. Les frères peuvent faire mémoire du refoulé, se parler réellement de leurs secrets, se racheter, en s'offrant à la place de Benjamin. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode de la coupe d'or qui avait été dissimulée dans les sacoches ? Vous vous souvenez de cette histoire, hein ? Joseph avait demandé à un de ses serviteurs, à son intendant, de dissimuler sa propre coupe de divination dans la sacoche de Benjamin. Et les frères avaient dit, mais non, nous ne savons pas où est cette coupe. Et avec raison, ils l'ignoraient. Et ils disent, mais celui qui est dans la sacoche duquel se trouve la coupe, ben, qu'il meure. Hein, ou bien nous deviendrons tous. Et vous avez vu comment ils ont réagi quand ils ont trouvé cette coupe dans la sacoche de Benjamin. Prends-nous à ta place. Bon. Alors, cette histoire de coupe, un peu titillée, je me dis, mais pourquoi? Et en fait, est-ce que vous savez comment Rachel est mort? Rachel, qui est la mère de Joseph et de Benjamin, la préférée. Non? Vous pourrez le lire ce soir au chapitre 31, il n'y a que 5 versets, versets 25 à 30. Elle s'était emparée subrepticement des dieux domestiques et les avait dissimulés dans ses bagages. Jacob, qui ignorait tout de l'affaire, avait déclaré « Le coupable ne vivra pas ». 31-33. Et Rachel était effectivement décédée après avoir donné naissance à Benjamin. Alors, il y a la mise en scène. Hein. On est mieux que dans Orson Welles ici, hein, ou Fellini. Hein. Il y a de la mise en scène. Hein. Mais ça dit quelque chose quand même. Hein. Hein. Voilà, et ça se termine, après toute une série de péripéties, par la parole de paix qui peut enfin circuler en paix entre les frères. La parole qui était profondément malade. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est puissamment intervenu, mais puissamment dans la discrétion. C'est-à-dire qu'il est intervenu qu'en fait que trois fois explicitement. Un, dans la mort du fils aîné de Judas, qui expérimente alors à son tour ce que signifie perdre un fils. Dans la consolation qu'il donne à Joseph en Égypte. Et aussi dans la permission qu'il donne à Jacob de quitter la terre promise pour descendre en Égypte. Ce sont trois interventions explicites de Dieu. Dans les autres cas, il laisse les acteurs se débrouiller, il ne se substitue pas aux acteurs. Derrière Joseph, il y a aussi en filigrane la figure de cette nouvelle solidarité dans le Christ. De cette nouvelle solidarité guérissante et intergénérationnelle. Il est le fils bien-aimé du Père, Jésus, Joseph, le frère de tous les hommes, envoyé par le Père pour donner la paix aux hommes. Souvenez-vous de Joseph qui est envoyé par son Père pour une parole de paix, hein, shalom. Prenant une forme d'esclave, vendu et maltraité, pardonnant à ses bourreaux, remontant d'entre les morts le troisième jour, nourrissant ses frères et sœurs du pain de vie, de l'Eucharistie. Alors, voilà, je voudrais conclure. J'avais prévu de vous parler d'un psychanalyste, Nicolas Abraham, qui est mort en 1987 et qui a mis en lumière l'existence de fantômes. C'est un symbole imaginaire, une représentation pour exprimer des vécus qui n'ont pas été bien réfléchis, assimilés, etc., et qui se transmettent de génération en génération. Mais je vais laisser ça de côté. Je voudrais simplement dire ceci, c'est que nous sommes tous en fait donc, deux choses. La première, c'est que Dieu, quand il se présente dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, apparaît comme non pas le Dieu simplement d'Abraham, mais d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire celui qui permet au conflit intergénérationnel d'être traversé. Donc, ça, c'est un point qui est crucial. Enfin, je pense que ça, ça éclaire d'un jour nouveau la conception qu'on a parfois d'un Dieu, une sorte de monade, etc. Mais c'est un Dieu qui est attentif aux générations. Deuxième élément, c'est que tous ici, dans cette assemblée, tous, chacun, chacune, nous sommes des arrière-petits-enfants. Nous sommes de la quatrième génération. Sous un autre apport, nous sommes de la troisième génération. Nous avons tous des grands-pères et des grands-mères, que nous ne les connaissions ou pas. Nous sommes tous de la deuxième génération, nous avons tous des parents. Et nous sommes aussi tous de la première génération. D'accord ? Et donc, l'Écriture sainte. Donc, on appartient à chacune de ces d'une génération sous un autre, sous différents rapports. Et donc, tous, donc, nous héritons de choses qui sont merveilleuses. Hein, c'est quand même un point qu'il faut quand même dire. L'héritage en général est. On reçoit peut-être 80% de positif, hein, au minimum, ou peut-être 90%, enfin, j'en sais rien, chacun dit ce qu'il peut. Mais on hérite aussi d'une série de choses, hein, en tant que membre de la deuxième génération, nous les transmettons sans en être conscients. En tant que membre de la troisième génération, nous en sommes peut-être conscients un peu et nous les transmettons un peu moins. Et en tant que la quatrième génération, on peut s'en libérer. Vous comprenez ? À chaque fois, sous un autre rapport. Et en même temps, nous sommes dans une première génération où nous transmettons, même si on n'est pas marié, à ceux qui nous sont confiés, aussi 80% de bons, mais aussi des choses qui sont... On provoque des nouvelles blessures qu'il n'y avait pas dans les générations précédentes. Oui. Et donc, c'est une des missions, c'est une des raisons d'être de la foi chrétienne, c'est de prendre conscience de ce qui est reçu, de prendre conscience de cette nouvelle solidarité dans le Christ, nouvel Adam, pour pouvoir mettre à distance et dans la mesure du possible se libérer de ce que nous aurions hérité de négatif, pour développer ce que nous avons hérité de positif, et pour pouvoir inventer aussi des nouvelles choses et éviter de transmettre aux nouvelles générations des choses négatives. Ouais. Je vous rassure, le juste pêche 77 fois par jour. Donc, je veux dire, voilà, cette solidarité, telle qu'en témoignent les générations décrites en Saint Matthieu, montre que... c'est une solidarité telle décrite aussi spécialement dans le livre de la Genèse que nous avons rapidement survolé, montre que nous sommes non pas dans une histoire rêvée, mais dans une histoire réelle, et qui, en accueillant le Christ, permet à la vie d'être libérée d'un côté et d'être transmise de l'autre, notamment par l'accueil de l'Eucharistie. Et ça, c'est un autre chapitre que nous verrons dans une autre vie. Voilà, je vous remercie. Merci.